بعينه. انت قلبك طيب ولو شلونك وينو 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 ولو الحبيت وينو ولي يشبه خشب الضامر حجات بعينو خشب الضامر خذاب احنا بعينه.
Alors ça vous a pas donné envie de danser dans le désert un petit peu tout ça?
C'est génial, ça change.
C'était Omar Suleyman, Wenu Wenu. Omar Suleyman qui est actuellement exilé en Turquie depuis la guerre en Syrie.
Ça, again, il est toi en plus.
Il est 18h07, vous êtes toujours dans Spam sur Pulsar avec Romain et Bastien, ensemble pour vous informer sur votre quotidien numérique et technologique. On s'intéresse tous les jours un peu plus à vos lendemains. Voici le pare-feu de l'actu. Et on va commencer ce pare-feu de l'actu avec Romain qui va nous parler de Mozilla. C'est bien ça, il y a du nouveau chez eux.
Oui, surtout dans l'Internet des objets, hein, parce que son avenir dans l'Internet des objets, bah, il pourrait bien se tomber à plat. L'éditeur du célèbre navigateur Firefox a décidé d'abandonner ses efforts dans l'Internet des objets en fermant sa branche, Connected Device. Et Pulsar, on l'attend aussi dans l'Internet des objets, parce que oui, un Mozilla, il était depuis un an à bloc dans le domaine des objets connectés. La fondation souhaitait à terme lancer des produits commerciaux, mais elle a finalement décidé de réorienter ses efforts vers la recherche et le développement. Pardon. Une cinquantaine d'emplois devraient être impactés par cette mesure. Il y a un an, pourtant, Mozilla annonçait l'abandon de la version mobile de son système d'exploitation Firefox OS pour se concentrer sur l'Internet des objets, avec des projets intéressants. Hein. C'était... notamment le projet Link, un assistant personnel à la sauce Google Home ou Amazon Echo, mais en version open source. Alors pourquoi cette décision ? Bah trop tôt, hein, selon la fondation. On peut toutefois se demander si ce n'est pas trop tard, parce qu'avec une concurrence déjà très présente sur le secteur des objets connectés. L'ère post-web est décidément un virage bien complexe à négocier pour la fondation, qui avait pourtant bousculé le monde numérique dès 2002 avec son navigateur Firefox, que vous utilisez tous évidemment,
non.
Lequel avait mis fin au monopole d'Internet Explorer, que personne n'utilise aujourd'hui.
Si.
Mais depuis son système d'exploitation, Firefox OS n'a jamais réussi à s'imposer face aux ogres Android et iOS, et même son navigateur mobile fait grise mine avec des parts de marché insignifiantes sur nos smartphones. encore raté, semble-t-il, cette fois pour l'Internet des objets.
Caramba.
Voilà, pourtant début janvier, Mozilla avait appelé, finalement un peu comme un baroud d'honneur, à développer des objets connectés responsables face aux défis posés par l'avènement de l'Internet des objets, des défis liés à l'érosion de la vie privée, la surveillance généralisée, au renforcement des divisions sociales, aux menaces pour la sécurité ou encore à la centralisation des monopoles. La fondation prenait alors l'Internet des objets au bénéfice de tous, que ce soit en matière de préservation de la planète ou encore de démocratie. L'Internet des objets sera la première bataille majeure de 2017, annonçait alors Mozilla, avant de fermer donc un mois plus tard sa branche Connected Device, une bataille qui risque au final d'être bien difficile à mener.
Ils sont devenus un peu has-been, hein, Mozilla, quand même, j'ai l'impression.
Bah, c'est un peu complexe.
Ils n'utilisent pas leur navigateur.
Et ils ont changé. C'est eux qui ont fait appel à la communauté pour changer de logo, il me semble. Et...
Ouais, mais il est sympa leur logo, je trouve, avec les deux points slash qui font le I et les deux L. Finalement, c'est plutôt efficace, je trouve.
Mais bon, ils ont un peu de mal, quoi.
Allez, on va retourner un petit peu plus dans le Poitou avec un test de Bastien sur la 4G Box que tu nous avais promis de nous en parler d'ailleurs.
Exactement.
Tu l'as et tu l'as testé.
Je vous ai fait la chronique, enfin
l'annonce,
la brève pour vous expliquer un peu ce que
c'était.
Je vous ai fait le teasing pour vous dire que j'allais peut-être le prendre. Eh bien, je me suis promené dans Poitiers, j'ai trouvé la boutique Bouygues Télécom, je me suis arrêté et j'ai pris un abonnement donc à la 4G Box. Que chez moi, comme Adrien vous l'a bien dit, il vous a donné mon adresse en ligne, sur les ondes. J'habite à Buxerolles, la DSL est vraiment pourrie, je suis bridé à 5 mégas. Donc je me suis dit...
Encore une fois, le point maire Buxerolles,
La promesse 4G Box de Bouygues, c'est au moins du 20-30 mégabits par seconde, en pratique et en théorie du 115. Donc comment ça se passe? On va en boutique, on vient avec un RIB et avec sa carte d'identité. Ils prennent votre nom, prénom, adresse et vous êtes donc enregistré chez Bouygues comme un utilisateur classique. Ils vous donnent la boîte et vous repartez. D'accord. Ensuite, vous êtes prélevé le premier mois de 19 euros pour les frais d'installation et le premier mois
247 euros.
Le mois est gratuit, donc le premier mois pour faire l'essai chez vous. Et ensuite, vous êtes prélevé de 29 euros plus 3 euros pour la location de la box. Une box, donc, comme je vous avais dit, Huawei, constructeur chinois, que vous pouvez acheter aussi à côté sur Amazon à 120 euros. Bref. Une fois que vous l'avez acheté, vous rentrez chez vous, une petite boîte, vous l'ouvrez, c'est génial, vous avez la box, un câble pour le brancher sur le secteur et un câble Ethernet.
Il ne faut pas grand-chose pour t'émerveiller quand même. Hein.
Moi, j'ai
mon Dieu, une boîte
Une boîte avec des câbles.
Une boîte avec une box dedans.
En plus, c'est cool. Une boîte dans une boîte.
Vous branchez, donc pas besoin de brancher à la prise télécom, puisque c'est une carte, une carte SIM que vous mettez dans les fesses de votre boîte.
Donc, tu personnifies un peu trop de doigts. Ça fait un poil flippé. En
ça, crée un réseau Wi-Fi. Donc Huawei machin, avec un mot de passe, et vous n'avez plus qu'à vous connecter avec votre téléphone, et ça y est, vous êtes connecté à Internet.
Sauf que... C'est du roaming version
c'est ça.
Box.
C'est comme un partage de connexion, mais avec une box et votre téléphone, et vous pouvez tout connecter. Je branche ma petite box, et là, je fais les premiers tests de débit, et là, le drame.
Non.
Je suis lié entre 5 mégas et 10 mégas, donc c'est pourri. Ça double quand même ma connexion, sauf que je pense que je suis très mal placé chez moi. J'ai dû la déplacer dans toutes les pièces pour avoir bien. J'ai 2 ou 3 barres maximum de réseau, donc c'est complètement pourri.
Monsieur le maire de Buxerolles a ajouté des antennes également.
C'est clair. Je suis sur la zone de la carte, je suis entre le orange et le jaune, donc c'est vraiment les débits moyens. Quoi. Par contre, c'est vrai que. Pour regarder la télé, parce que moi j'utilise une application Molotov sur une box TV, j'utilise pas la télé de ma box internet. Donc la qualité est très bonne. Pour du Netflix, la qualité est très bonne. Des fois, il y a des petites pertes de paquets, donc on perd un peu. Mais c'est quand même mieux qu'avec ma box internet. Donc,
tu vois le début de l'épisode, tu vois la fin de l'épisode, t'as pas le milieu. Ce serait chiant.
Je ne sais pas si je vais le garder. Je vais attendre la fin du mois pour voir si c'est assez stable. Vous avez une application qui s'appelle Huawei Link, je crois, ou iLink, qui vous permet de suivre la consommation de données que vous avez. Alors, dans les petites lignes, ils vous disent que c'est limité, mais c'est limité à 200 gigas.
Ça laisse de la marge.
Moi, je suis déjà à 40 gigas de données en 5 jours.
Ah oui, quand même.
Oui, ouais, mais tu regardes beaucoup
je regarde beaucoup. Alors, j'ai fait un marathon Netflix ce week-end.
T'es quand même le monsieur série. Ouais, hein,
c'est 1 giga par épisode à peu près. Donc, bon. Donc je suis mitigé. Je vous redirai si à la fin du mois, je vais garder la box ou pas. Voilà.
D'accord, disons, ça fait un peu. Ouais, ça donne pas envie.
En
fait.
C'est moyen.
En tout cas, on peut pas nous accuser d'être sponsorisé
par Huawei. C'est sûr, moi,
ça dépend d'où vous habitez vraiment.
T'as les constructeurs de Bouygues et le maire de Buxerolles qui va venir te taper avec une pelle. Il va y avoir droit. Merci Bastien. Voilà. Alors, après ça, on va faire une petite pause musicale parce que bon, il nous a un peu déprimé avec sa box. On va écouter Drive de Dornick.
Grab the keys, let's go for a ride. On with the stereo, get lost in the night. I've been waiting to show you how to run. Let hell fall out the window. Underneath the stars and silver moon, I want to get to know you soon. Sing all the songs I don't know what to do.
Dornick qui chantait Drive. Il y avait un petit côté Michael Jackson dans ce petit son.
Ah.
Ouh, ah.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
La petite folie scientifico-technique de la semaine nous vient de deux groupes de scientifiques américains, du Charles Clark Draper Laboratory, Massachusetts,
yeah,
et de Howard Hughes Medical Institute, Maryland, qui sont parvenus à transformer une pauvre libellule qui n'avait rien demandé en cyborg télécommandé, en drone vivant si vous voulez. Les chercheurs ont mené à bien le projet Dragonfly, consistant à prendre le contrôle du système nerveux d'une vraie libellule et de commander ses déplacements. Alors l'idée est très intéressante dans la mesure où la libellule est capable d'étonnantes prouesses aériennes que les copies robotisées ne peuvent pas suivre actuellement. Alors c'est pas la première fois qu'on manipule... Tu fais les cigales.
J'essaie de faire le bruit là.
Je me demandais ce qu'on entendait.
C'est des libellules qui volent.
C'est pas la première fois qu'on manipule de petits êtres vivants pour les télécommander. Alors, en 2015 et en 2016, des expériences similaires de pilotage d'insectes se sont déroulées sur des cafards et des coléoptères. Et même des rats de laboratoire ont pu être transformés en robots télécommandés par des scientifiques qui sont
ont été transformés en hélicoptères.
Non, pas du tout. Ils étaient transformés en coléoptères. En coléoptère 2.0. En fait, ce qui est nouveau dans cette libellule télécommandée, c'est la technologie utilisée à mi-chemin entre une prouesse technique et la manipulation biologique. Les scientifiques ont utilisé une technique d'ingénierie nommée optogénétique, dont le but est d'identifier les réseaux neuronaux et de stimuler les cellules neuronales par le biais d'une lumière bleue. Celle-ci active alors une protéine présente dans les cellules neuronales. Et pour stimuler le système nerveux, ils ont développé une mini-fibre optique baptisée Optrod, capable de diffuser de la lumière tout en étant recourbée. C'est peut-être le futur de la fibre optique. Les scientifiques ont également utilisé des libellules génétiquement modifiées afin de faciliter la transition entre la lumière et les neurones. On est vraiment au croisement de deux disciplines. Résultat, de gentilles libellules qui se baladent avec un mini sac à dos de technologie sur eux et qui sont pilotées à distance pour le fun. En fait, ça peut paraître anodin, mais ça ouvre surtout des possibilités gigantesques. En effet, on peut imaginer des armées d'insectes capables de polliniser des champs entiers. C'est intéressant, alors que les agriculteurs constatent toujours plus de problèmes de pollinisation de la part des abeilles pour le futur agriculteur.
Les abeilles, c'est pas grave, on pourra les remplacer par des robots. On vit dans un monde formidable. Moi, j'adore.
En fait, on pourrait vraiment contrôler l'agriculture du futur avec des espèces de drones mi-vivants, mi-robots. Le mois prochain, je signale comme ça, devrait sortir la version live du film Ghost in the Shell, le magnifique film que je vous conseille tous de voir, déjà en version animée. On en reparlera. Et ça raconte le futur entre humains, cyborgs et robots, pour faire très 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 court. Et ben, on peut se dire que ça commence par des putains de libellules. On peut s'attendre à Noël prochain d'avoir des drones libellules, ça changera des hélicoptères d'eau pourrie.
C'est la mouche, quoi.
Puis je serais curieux de savoir l'espérance de vie d'une libellule, parce que tu l'équipes, mais elle vit combien de temps, la libellule?
Généralement, ça vit un an, une libellule.
Un an?
C'est comme les mouches, c'est-à-dire ça fait un hiver, ça crève.
On investit tout pour elle, et puis elle meurt au bout d'un an.
Dis donc, c'est des millions.
J'espère qu'on peut récupérer le matos au moins.
Non, mais une libellule, de toute façon, c'est pas redevable du tout, quoi. Ça, c'est pas un merci, rien du tout.
On embrasse toutes les libellules qui nous écoutent, bien sûr.
Voilà.
Bisous les libellules. On est tout à fait normaux. On va changer à propos de gens qui papillonnent et qui voilà. On va parler de Jean-Luc, Romain.
Jean-Luc Mélenchon s'est dédoublé dimanche à l'occasion de son premier grand meeting de campagne, présent physiquement à Lyon. Il était également sur scène en région parisienne, à Aubervilliers, où il a semblé se téléporter d'un claquement de doigts et d'un effet spécial digne des plus grosses productions hollywoodiennes.
C'est tellement le malaise.
Et maintenant, à Paris.
Alors c'était digne de l'émission de Mimi Mathy, Joséphine Ange Gardien.
Mais cela dit, il faut quand même dire que sa projection holographique était du plus bel effet, faut bien l'avouer. Bon, quand on parle de projection holographique, faut pas non plus penser à un exploit technologique. Adrien nous avait déjà parlé des hologrammes dans une chronique il y a quelques semaines. Tu es expert hologramme. Et soyons réalistes, nous ne sommes pas capables en 2017 de générer un véritable hologramme au sens propre du terme, à vrai dire. On arrive tout juste à reproduire un Rubik's Cube de quelques centimètres et encore, ça demande une énergie folle. Même Éluche, rien ne l'arrête. Donc, faute de grive, on mange des merles. Alors, pour se dédoubler...
Cette expression du 19e siècle.
Eh bien, justement, parce que lui aussi, il emploie des vieux procédés. C'est un procédé vieux comme le monde, à savoir celui du fantôme de Pepper, une technique d'illusion d'optique utilisée dans le théâtre depuis le 16e siècle. Tu nous en avais déjà parlé, Adrien, il y a quelques semaines. Le principe est très simple, une caméra filmait Jean-Luc Mélenchon, bon à l'époque il n'y avait pas de caméra, mais les données étaient transmises depuis satellite à un rétroprojecteur qui diffusait l'image de la caméra sur le sol de la scène d'Aubervilliers, une image reflétée par une fine toile transparente inclinée à 45 degrés et donnait l'impression de voir le candidat de la France insoumise en trois dimensions. Rien de plus. Donc une technique déjà utilisée, on vous en avait déjà parlé, pour rappel, pour ressusciter le rappeur Tupac sur la scène de Coachella en 2012 ou encore Michael Jackson en 2014. C'était pendant la cérémonie des Billboard Music Awards. Jean-Luc Mélenchon avait pourtant annoncé une première mondiale, mais c'est pas si faux, hein, malgré les contradicteurs. C'était la première fois que cette technique était expérimentée en direct pour un meeting politique. Donc faute d'une réelle prouesse technologique qui avait quand même son coût, entre 50 000 et 100 000 euros selon le Huffington Post.
C'est pareil, avec des vraies factures qui sont
factures payées.
1 million selon Big Malion. c'est quand même un magnifique coup de communication qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon, notez le jeu de mots, dans le bouchon politique lyonnais ce week-end entre les meetings d'Emmanuel Macron et les assises politiques de Marine Le Pen. Les bouchons lyonnais. Il fallait bien se faire remarquer.
J'ai pas suivi, excuse-moi.
Voilà, et Jean-Luc Mélenchon devait bien se faire remarquer donc entre Macron et Le Pen, et ça a fonctionné puisque sur Twitter, le sujet était dimanche en tendance mondiale. Emmanuel Macron était par ailleurs moqué sur le réseau social pour lui avoir présenté un holo-programme, comme quoi on n'arrête pas le progrès. En tout cas, c'est une nouvelle réussite numérique pour Jean-Luc Mélenchon. Lui, dont la chaîne YouTube cartonne, et c'est peut-être la première fois qu'un candidat à une élection présidentielle fournit autant d'efforts de communication sur ses supports. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le candidat, force est de constater que c'est une stratégie qui semble fonctionner, et ça lui permet de toucher une cible qui serait difficile à atteindre via des méthodes plus traditionnelles de communication que sont la télévision ou la presse.
C'est pas faux. Non, mais c'est vrai que ça a bien marché niveau com. Même moi qui ne suis pas du tout les meetings politiques, j'ai regardé juste pour curiosité.
Et maintenant, à Paris.
C'était magnifique, hein, c'est vrai que c'est drôle.
Et donc, est-ce qu'on parle de ce fameux article du Gorafi?
Oui, cite-le. Quoi,
on l'a mis sur la page Facebook.
C'est ça, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon échappe à tous les contrôles et sème la terreur dans Paris. Ça nous a fait beaucoup rire, il faut que vous lisiez cet article du Gorafi.
C'est sur Facebook.
De manière générale, lisez le Gorafi, c'est toujours assez drôle.
Voilà.
Voilà. Allez, à propos de gens qui se baladent et d'intelligence artificielle, je vais revenir un dernier point.
La transition.
Ouais, j'ai un peu raté celle-là.
À propos d'intelligence artificielle, on parlait pas du tout de ça.
Bah, programme artificiel, intelligence artificielle, hologramme.
Numérique.
Bienvenue dans ce fan.
Bon, c'est parti pour un petit point d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Dans les épisodes précédents, nous avions l'intelligence qui bat les hommes aux dames, aux échecs, l'intelligence artificielle qui bat les hommes aux jeux de go, l'intelligence artificielle qui bat le beurre.
Celle qui trompe ta femme.
La semaine dernière, c'est au tour du monde du poker de se voir laminé par des disques durs et des barrettes de mémoire vive. Une IA baptisée Libratus, développée par le département informatique de Carnegie Mellon, a donc vaincu 4 joueurs professionnels de poker dans un tournoi étalé sur 20 jours en Pennsylvanie. On commence à comprendre, elles sont trop fortes les IA, elles vont nous battre partout. Ce qui est nouveau dans ce cas-là, c'est que c'est la discipline qui est ciblée. Le poker, qui, comme vous le savez, si vous jouez un petit peu, implique une part de bluff. Et grâce à 3 logiciels fonctionnant sur le deep learning, l'apprentissage progressif par observation, la machine a pu bluffer les joueurs de manière de plus en plus performante au cours du tournoi. Ils ont gagné les 5 premiers jours et puis au fur et à mesure des jours suivants, ils ont perdu de plus en plus face à la machine. Une machine est donc capable de mentir et se rapproche encore un peu plus des capacités purement humaines. Alors comme toujours, on peut se dire « Ouais, c'est génial, mais enfin, dans ma vie quotidienne, ça va pas changer grand-chose. » Eh bien, détrompez-vous, Frank Fenning, directeur du département informatique de l'université en question, qui a développé cette IA, si vous y suivez bien, il voit une possibilité très concrète, celle par exemple d'avoir une appli sur votre smartphone qui négocierait automatiquement un crédit pour l'achat de votre voiture ou de votre appart. Si vous êtes courtier ou commercial, commencez à penser à une reconversion.
Parlons-en des courtiers.
Voilà, on y vient, ceux qui ont des problèmes de courtier actuellement dans la salle. Voilà, c'est assez intéressant parce que c'est quand même le début de la fin des métiers du travail en cause des IA, donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec les débats politiques actuels. C'est une preuve qu'un métier pourrait disparaître à cause d'une fonctionnalité apportée par le numérique.
Ouais, mais même au niveau des traders, après tout, parce qu'il y a beaucoup de transactions automatisées. Et moi, je suis ravi d'avoir un trader dans ma poche personnelle.
Ça va être cool. Aussi. Pour l'instant, ça ne nous rapporte pas beaucoup. Il faudrait peut-être le faire démarrer. Merci, c'est tout pour les brèves de la semaine des activations du pare-feu de l'actu.
Elle est jolie, elle a une présence animale fantastique. Présence animale fantastique. C'est exactement le mot qui convient.
Allez, avant de passer aux chroniques, on va faire une petite transition sur le vocabulaire du rap avec Hocus Pocus et son magnifique vocab. Hocus Pocus in the place to be. Procussions. I check it out one time. Yeah, je voudrais que mes mots sonnent corps. Check it out. Que quand t'écoutes, tu dis you know what it's all about. Ou bien, no doubt. C'est pas ce qui claque sur basse, qui te bloque au sol, qui pack, qui craque, qui nique la console. Come on. Ma langue à l'histoire, les racines et le sens. Là, leur a les stars, fashion et le slang. Non, shit on me. Putain d'accent, je veux le mettre dans mes textes. Mais quand je rappe qu'un rythme, tout le monde me dit who's next? Ils me disent tous le yaourt abandonne. Alors en scratch, je fais tourner la MPC. J'improvise Danone sur mon coin d'hexagone. J'examine la donne entre Shakespeare, Stallone, Shakespeare, tâtonne pour trouver mon truc, assumer mon langage. Même si chez moi les airs sonnent et que eux les mâchent, on a leur PC, leur sandwich et leur chewing-gum vert. Et eux, on offre savoir-faire. Je veux pas de terre, pas de terre, shit, pas de terre, motherfucker. Je veux pas de terre, nigga, pas de terre, bitch, pas de terre, sucker. Je veux pas de terre, pas de terre, shit, pas de terre, motherfucker. Je veux pas de terre, nigga, pas de terre, bitch, pas de terre, sucker. Yeah. Know what I'm asking for? Maximum degree. I'm actually asking if you see a passion in MC. I'm past masking who I be. I pay my dues, it's like if they playing, you're like deja vu. I'm saying, dude, they're giving us the same one-liners. Money, drugs, guns, honeys, thugs, mining for gold, cash, diamonds in the ears of deaf soldiers. Yo, I'm holding fast and rhyming for the years they left over. Oui, oui, be still mon coeur. Sometimes when I be chilling, I can understand a word or two, maybe three, good day, six. But most of the time, French rhyme shines in bits. Many times it's the point that I miss. But if I like it, I bump it. But I won't know the gist. I hum a long riff. Mais je sais pas c'est quoi.
I never know the meaning, but that feeling be wrong.
Now on the regular, not a church girl, she was secular. Not about the money, somebody redirected her. I know I met her at an earlier age, but she don't look the same way on the page. Got a brother confused, and I ain't willing to lose. You can believe me a fool when it's cool, cause after all of this music, I tell her, je ne parle pas français. But when the rhythm is cool, it doesn't matter if together we move. Come on, come on.
Je veux pâté, pâté,
shit,
pâté,
motherfucker.
Je veux pâté,
nigger,
pâté,
bitch,
pâté,
sucker.
Je veux pâté, pâté,
shit,
pâté,
motherfucker.
Je veux pâté,
nigger,
pâté,
bitch,
pâté,
sucker.
Yeah, yeah, je leur ai piqué des mots de ci, de là. Et mon chant lexical vaut pas plus de 6 dollars. Je me prends pas pour J.D. là, loin de là. Je reste fan, bref, j'idolâtre plein de gars.
One love.
Parce que trop de classiques me mettent presque en transe. Mais parfois je tombe de haut quand j'en saisis le sens. On se moque du fond tant qu'on atteint la cible. Résultat, plus de bip que de mots intelligibles.
Let's f*** that motherfucker in that.
Pardon?
Once again.
Non, 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 passons. J'aime ma langue natale, mais je dirais pas tellement qu'elle a la musicalité d'un régiment allemand. Je suis né ici, pas une NYC, parfois plutôt fier. Quand j'arrive à faire chanter ce foutu vocabulaire, on a leur soda, le best of du business de Bush Fist. Et eux ont notre
French kiss.
Je veux pâté, pâté,
shit,
pâté,
motherfucker.
Je veux pâté,
nigger,
pâté,
bitch,
pâté,
sucker.
J'veux pâté, pâté,
shit,
pâté,
motherfucker.
J'veux pâté,
nigger,
pâté,
bitch,
pâté,
sucker. I like your
peace,
like your
unity,
like your
love,
love. I like your
jazz,
like your
soul,
like your
hip hop.
I like your
peace,
like your
unity,
like your
love,
love. I like your
jazz,
like your
soul.
C'était Hocus Pocus avec Vocab.
Animal fantastique, mais un animal fantastique. C'est exactement le mot qui convient.
Pulsar, les étoiles en plus.
Allez, on va faire un petit tour de ce qui se passe sur le web, Romain. T'as allé regarder la planète de la de l'internet.
Et
de
oui.
Tout. Qu'est-ce qui se passe sur l'internet?
Et Romain, juste pour t'introduire, on a une petite musique pour toi.
Ah oui, introduis-moi. Tu me fais plaisir.
Ça semble tellement vieux maintenant ce son.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'on est un peu old sur ce
Ouais, c'est old.
Bon, allez, on démarre ce tour du web avec la guerre déclarée par Facebook aux fake news. Je te remercie vraiment, Bastien, ça me touche. Les fake news, hein, c'est le nouveau fléau du réseau social. 8 médias français, dont Le Monde, l'AFP, BFM TV, France Télévisions ou encore Libération ont décidé de collaborer avec Facebook pour y limiter la présence de fausses informations, lesquelles, pour rappel, avaient gangréné sur Facebook pendant la présidentielle américaine, ça me perturbe. Et il se murmure qu'elles auraient contribué à faire élire un certain président orange. Ce dispositif va permettre aux utilisateurs de signaler un contenu suspect que les médias partenaires pourront alors vérifier pour décider si oui ou non, hein, il s'agit bien d'une fausse information. Si au moins deux médias indiquent qu'il s'agit bien d'une fake news, un message d'avertissement s'affichera lorsqu'un internaute voudra la partager. Certains pourront arguer que ce travail de vérification reviendrait à Facebook, hein, que les médias se font bien avoir. Mais de la sorte, Facebook ne passe pas pour un censeur, hein, il décide de faire appel à la bonne volonté de tous, à savoir les internautes, puis ce qu'on appelle quand même le quatrième pouvoir, à savoir la presse. Donc ce dispositif est déjà en place aux États-Unis, il arrive en Allemagne et devrait être étendu bientôt à d'autres pays. Et puis fact-checking toujours, hein, Le Monde a lancé la semaine dernière son nouvel outil, le Décodex. Alors le Décodex, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous en avez
entendu parler. Oui, bien sûr qu'on n'a pas pu rater parler. Ça.
Bah oui, c'est une base de données qui recense les sites d'information et qui permet de vérifier si elles sont fiables ou non. Donc vous tapez l'adresse par exemple lemonde.fr et l'outil vous livre son diagnostic sur le sérieux de la source. Alors en vert, les sites sérieux, en orange, les sites peu fiables ou aux informations très orientées, et en rouge, les sites pas du tout fiables, complotistes ou trompeurs. Il y a aussi, je crois, le bleu pour les sites satiriques. Alors pour Le Monde, aucun problème évidemment,
oui, hein,
Le Monde va mal se noter, puis de toute façon on voit pas pourquoi. Mais d'autres sites sont épinglés par l'outil, c'est un jugement qui a suscité des interrogations, certains dénonçant un conflit d'intérêts dans le fait que Le Monde soit à la fois producteur d'informations et celui qui se permettrait de les juger. D'autres se questionnant aussi sur la manière dont Le Monde a procédé à son classement. Si les sites de presse française les plus connus sont tous au vert, qu'est-ce qui fait basculer vers le orange ou vers le rouge? les sites militants, hein, selon Le Monde, qui ne sont pas forcément donc objectifs sur le traitement de l'info. Pourtant, le site de l'Humanité, lui, bel et bien vert.
Ouais, ça posait pas mal de problèmes en plus, parce qu'il y avait Fakir qui était mis en rouge, qui est un site plutôt d'extrême gauche, mais relativement bien informé, et Valeurs Actuelles plutôt
classé. N'est que orange.
Droite n'est que orange, donc ça a posé beaucoup de débats. Mais apparemment, ils vont, j'ai vu que Samuel Laurent, l'un des chefs du projet des Codex, ils vont remettre à jour plusieurs choses là-dessus, pour recalibrer un petit peu. Et oui, il y a un autre site d'ailleurs qui est catalogué orange, c'est Breitbart News.
Ouais, Breitbart News, c'est un site d'information allègrement d'extrême droite, pour le coup, hein, comme un peu comme Valeurs Actuelles, ou Français de souche, hein, d'ailleurs, parce que ça, c'est un site aussi qui est classé orange sur le Décodex.
Juste orange, putain, j'ai pas vu ça.
Si, si, ouais, j'ai testé, ouais.
Ça, c'est un peu gros, quand même.
Et preuve en est, hein, le directeur exécutif, le président exécutif de Breitbart News était encore jusqu'à l'an dernier Stephen Bannon, c'est le conseiller très controversé de Donald Trump. Alors Breitbart News devait arriver en France prochainement avec l'ambition de peser en faveur de l'extrême droite, évidemment, sur l'élection présidentielle 2017. Raté pour cette fois, grâce à un activiste français qui a racheté les noms de domaine Breitbart.fr et leur déclinaison. C'est à ces adresses que le site pro-Trump version française aurait dû être accessible. Donc si Breitbart News voulait les récupérer, hein, ce serait peut-être pas chose facile, l'activiste ayant déclaré qu'il souhaitait pas les vendre.
C'est un bon moyen de se faire un peu de thunes d'un coup.
Ouais. Exactement.
C'est clair.
C'est franchement une bonne vanne pour 20 euros par an, ça va. Hein.
Ouais, même si je pense que la justice pourrait derrière quand même s'y coller et obliger cette personne-là à rendre les noms de domaine. Mais c'est bon, ce sera peut-être pas pour demain. Quoi.
Ce serait long.
Voilà. Et puisqu'on parle de noms de domaine, hein, les vautours rôdent dans le parti Les Républicains depuis l'affaire du Penelope Gate, ou du Fillon Gate, hein, dites comme vous voulez. Le candidat du Parti Républicain, François Fillon, est fragilisé et rien ne dit qu'il pourra aller au bout de sa campagne présidentielle. Alors ça s'active dans les coulisses, hein, ou dans
il
le cas d'un
pardon,
plan B.
C'est bon, c'est fini là, on parle d'autre chose, c'est fini, il a dit pardon.
Ah oh bah oui, il tout exposé.
Tout est clair, il a dit pardon.
Donc il n'y aura pas de plan B. Hein Mais donc pourquoi chaque remplaçant potentiel est-il allé réserver son nom de domaine, comme François Baroin avec Baroin 2017, Christian Estrosi avec Estrosi 2017, Laurent Wauquiez avec Wauquiez 2017 et Xavier Bertrand avec Bertrand2017.fr.
Les mecs ont honte de rien.
Oui, mais alors, tout de même, quelques nuances, parce que chez Xavier Bertrand, on plaide non coupable. Ça ne vient pas de chez nous, assurer une de ses conseillères. Et je veux bien les croire, moi, parce que j'ai vérifié les dates de création des noms de domaine de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez. Et bizarrement, ils ont été tous les deux créés quasiment au même moment. C'était le 31 janvier vers 23h. Donc on peut se demander quand même si c'est pas l'œuvre d'un petit plaisantin. Quant au nom de domaine Larcher2017.fr, c'est qui aurait dû appartenir à Gérard Larcher, hein, le président du Sénat, un temps pressenti pour remplacer Fillon, mais il redirige vers un compte Twitter satirique. Et le propriétaire s'autodéfinit comme un troll au combat. Donc il convient quand même de faire la distinction entre véritables ambitions présidentielles ou simple cybersquatting de quelques rigolos, hein, qui au passage justement espèrent peut-être récupérer un petit peu d'argent à la revente.
Il y a moyen.
Et on reparle un peu du Penelope Gate, François Fillon a trouvé des super alliés sur Twitter.
Ouais, et franchement c'est un peu gros, mardi dernier François Fillon se défendait avec fermeté en déclarant « jamais une opération d'une telle ampleur, hein, n'avait été menée pour monter pour essayer d'éliminer un candidat choisi par des millions d'électeurs. » Et dès le lendemain, cette phrase a été reprise à l'unisson et au mot près par un nombre un petit peu suspect de comptes Twitter, des déclarations accompagnées du hashtag « Stop à la chasse à l'homme ». C'était un des mots-clés les plus utilisés sur le réseau social mercredi dernier. Et pour cause, hein, l'équipe de communication de François Fillon a adopté une stratégie grossière avec l'utilisation de robots postant automatiquement le message ou encore l'envoi de mails aux militants. Et ces mails étaient accompagnés d'un bouton sur lequel il suffisait de cliquer pour poster le message. C'est vilain et puis surtout, ça sert absolument à rien. Et puis à propos de tweets et de Penelope Gate, vous savez que Penelope Fillon est aussi épinglée pour sa contribution à la revue des Deux Mondes, deux notes qui lui auraient rapporté 100 000 euros, hein, rien que ça.
C'est très bien écrit. Hein. Je les ai lus, ces deux notes, c'est l'équivalent d'une demi de nos brèves.
Ouais,
on devrait se les faire payer, c'est peut-être qu'ils sont cons. Hein.
C'est clair.
Je me demande combien ça nous rapporterait une brève, mais je ne sais pas si vous saviez qu'au tarif de Penelope Fillon, un tweet de 140 caractères, ça vous rapporterait 4 000 euros. C'est ce que vous apprend le Penelope Cash Generator. Je ne vous donne pas l'adresse parce qu'elle est un peu compliquée, on la postera sur Facebook. C'est un site web avec un champ de texte et un compteur qui augmente au fur et à mesure que vous saisissez du texte. Et donc, on y apprend que Penelope était payée 28,57€ le caractère, ce qui n'est pas si mal.
28,57€, c'est pas mal, effectivement. Elle n'a pas besoin de faux comptes sur Twitter pour faire sensation, elle, par contre, et c'est le grand écart parce qu'on va passer de Penelope à Beyoncé.
Grand écart, effectivement. Oui.
Et on finit par une note un peu plus légère. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle sait en faire des grands écarts. Si je vous dis que Beyoncé va avoir des jumeaux, vous me direz
je te laisse assumer ça, mais entièrement. Ah,
ouais. Je me dis solidariste de cette
complètement.
Voilà, bah, vous me direz que si je vous dis qu'elle va avoir des jumeaux, vous me direz qu'on n'en a absolument rien à foutre.
On n'en a absolument rien à foutre.
Voilà, bah, figurez-vous que ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'elle a littéralement fait péter les compteurs d'Instagram en publiant une photo d'elle agenouillée de profil sous une espèce de voile de mariage jaune pisse en soutien-gorge et laissant deviner son ventre habité par deux fœtus, le tout devant position florale. Bref, le genre de photo après une préparée que je fais tous les jours avant d'aller au boulot. En seulement 13 heures.
T'es enceinte ?
Ouais, exactement. Je suis enceinte
de Jay-Z.
D'un peu trop de crêpes de la chandeleur. En seulement 13 heures, cette photo avait obtenu plus de 7 millions de likes et on a aujourd'hui dépassé la barre des 10 millions tout en approchant les 500 000 commentaires. On attend la photo de quatrième de couve du programme d'Emmanuel Macron pour savoir s'il générera le même engouement. Et concernant cette grossesse de Beyoncé, un compte Twitter a fait parler de lui puisqu'il savait... Il avait, semble-t-il, prédit l'événement plusieurs mois à l'avance, tout comme la victoire de Trump à la présidentielle ou même le Brexit. Ce compte s'appelle Beyoncé Fan 666 et serait en fait un petit malin. Il aurait écrit plein de prédictions différentes en mettant son compte en privé, avant d'effacer les fausses prédictions, puis de passer son compte en public. Pas bête la bête, et c'est tout pour le tour du web de cette semaine.
J'ai une vision de Macron habillé avec un voile de Beyoncé, je suis désolé, ça va.
Qui tient son programme comme ça, comme si c'était son bébé, ça.
Exactement.
Il y a deux pages aussi. Merci Romain.
Pulsar, je t'aime.
Si tu me parles assez long aiguë sur mes oreilles, j'entends rien.
Pulsar.
Alors on va passer à la chronique suivante avec Bastien, et tu vas nous parler, il me semble, de cassettes audio.
Eh oui. Vous trouvez pas ça incroyable ?
Si, moi je suis complètement...
On est dans Spam, juste... s'il te plaît, un peu de décence.
Je vous passe juste un petit morceau pour vous rappeler un peu l'époque de la cassette audio.
Sur le meilleur de la FM, Radio Boulmiche 104.5 FM. Après le tout dernier Bronze qui bat, le remix de Marcel Carmon, tant attendu, il est déjà classé numéro 7 au Maxi Top et il nous arrive tout droit des bacs. Yeah!
Ça vous met un peu dans l'époque, quoi.
Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça? Le 93 NTM a pris la radio d'assaut. Le bâtard est baïonné. Alors S, envoie la purée.
Ceci s'appelle une prise d'otage en live. La radio
d'assaut. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait écouter à l'époque des cassettes.
Ouais, c'est beau, ça donne quand même des leçons d'animation radio. On a des choses à apprendre encore. Hein.
Un petit peu.
Donc vous pensez être cool. Vous pensez être cool avec votre vinyle chiné dans un vide-grenier avec votre nouvelle platine 33 tours flambant neuve qui trône dans votre salon, sachez que vous êtes déjà démodé.
Et oui, merde.
Le vinyle, c'est Saut 2011 ou Saut 1960, on sait plus vraiment. Mais alors, c'est quoi le nouveau support à la mode, me direz-vous ? Eh bien, vous le savez déjà, puisqu'on l'a évoqué dans le sommaire, c'est la cassette audio.
Wow.
Ce petit produit que l'on situe entre le vinyle et le CD a été lancé en 1963 par Philips. Ce qui a fait son succès, en fait, c'est la sortie du support par rapport, la solidarité du support
la solidité,
par rapport,
la solidité
pardon, du support par rapport au vinyle, sa petite taille, mais aussi et surtout la sortie en 1979.
Ça vole quand même beaucoup moins bien qu'un vinyle. Je trouve ça beaucoup moins intéressant.
C'est vrai. Mais aussi donc, son succès a été dû à la sortie en 1979 du Walkman par Sony, qui permet en fait de vous déplacer avec votre musique où vous le souhaitez. C'était aussi un astucieux moyen pour pirater la musique de la radio et se créer ses propres compiles avec la fameuse option REC.
Ah oui, voilà. Ça c'est la belle époque.
C'est le début des piratages. 1983, le CD sonne le début du déclin des ventes de cassettes et le chemin est long. Mais en 2015, les premiers chiffres sont tombés et la courbe des ventes a commencé à reprendre du poil de la bite. La bite B-E-A-T.
Beat Generation, quoi.
Oui, précise.
On veut des chiffres, vas-y, donne-nous les chiffres.
Alors, ces chiffres sont bien entendu faibles, mais l'évolution est quand même conséquente. En 2015, ce sont 74 000 cassettes qui ont été vendues. Bon, ok, ils se foutent de la gueule, là,
ouais.
75
000. Mais
tu les avec quoi, surtout
Alors, attendez un peu. En 2016, les ventes sont quand même arrivées à 129 000 unités vendues. Donc, ça a presque doublé. Ce qui est rien forcément à côté des 13 millions d'unités vendues de vinyle et les 8 millions de CD. Mais le marché est à peine à son revival. De plus en plus de foyers français sont déjà équipés en cassettes, peu plus que le vinyle. Donc il y a peut-être une forte évolution à prévoir du côté des ventes de cassettes audio en 2017. À noter également que le web a bien aidé en 2016 aux ventes de ce support, puisque 43% de ces dernières ont été faites en ligne. Pour continuer avec quelques chiffres de l'industrie, sachez que, pour vous remettre un peu le contexte, les ventes de CD, elles, ont baissé en 2016 de 17%, Donc vous inquiétez pas, en 2050 ça reviendra le CD, donc continuez à en acheter.
tandis 12 000 teraoctets.
Donc tandis que celles des vinyles ont augmenté de 10% aux États-Unis. Donc c'est quand même
c'est dingue. C'est surtout le retour du vinyle et qui fait tout quoi.
Bah oui, donc peut-être que c'est sûr, même la cassette c'est le gros retour.
Mais qui mise sur ce support aujourd'hui, d'où vient ce retour pour la cassette ?
Eh bien, c'est d'abord un retour en force de la mode des années 80 et 90 et de la mode qu'on appelle aujourd'hui normcore, qui a poussé petit à petit la cassette sur le devant de la scène en 2015.
Normcore.
Ensuite, vous vous doutez, ce sont les artistes aussi qui ont participé à ce revival. Par exemple, en 2015 avec Daft Punk, je vous mets un petit son.
Ouh, oh yeah.
Avec la sortie de son album Random Access Memories, qui a sorti donc sur support cassette l'album en entier pour en faire la promo. C'est également le cas de Justin Bieber. Alors c'est un peu ironique Justin Bieber parce que la plupart des gens qui écoutent n'étaient pas nés pendant, qui écoutent du Justin n'étaient pas nés pendant l'époque de la cassette. Également Kanye West, The Weeknd, qui sortent toujours leur album aujourd'hui sur cassette.
Est-ce que Beyoncé va sortir une cassette bientôt ?
Et ben c'est fort probable, tu sais. Parce que
enregistrement, c'est le gamin qui accouche.
Ensuite, vous avez la BO des Gardiens de la Galaxie.
Hein ?
On avait écouté la semaine dernière une partie, enfin une chanson grâce à Adrien.
Oui.
Et ça a été un gros carton. Alors, à son niveau cassette audio, ça a été vendu à 4000 exemplaires. Donc c'est quand même, quand même pas rien. Des maisons de disques aussi commencent à ressortir des albums mythiques, Purple Rain de Prince ou Slim Shady d'Eminem. Ensuite, des enseignes comme Urban Outfitter, qui est une chaîne de magasins de vêtements et qui suit assez les nouvelles tendances actuelles, a représenté à lui seul 21% du marché, donc des petites bandes magnétiques. Une journée spéciale même est organisée chaque année depuis 2013, à l'instar du Discard Day. Il existe désormais le Cassette Store Day, qui est le 8 octobre. Donc vous pouvez aller chiner ou alors acheter vos cassettes en magasin.
Ou en revente, j'en ai peut-être des collecteurs.
Exactement.
Michel Sardou, là, vous reformez.
Messieurs, vous êtes à la pointe si vous avez des cassettes. Au niveau des constructeurs, les choses se mettent également doucement en place. Vu les chiffres encore faibles, il faudra attendre forcément quelques années. Mais Sony est déjà sur le coup, même si en 2010, il abandonne le marché des cassettes, forcément. Peut-être un peu tôt, puisque Sony a annoncé en 2014 qu'il allait lancer une cassette dotée d'une capacité de stockage allant jusqu'à 185 teraoctets, soit 65 millions de chansons.
Mais la taille de la cassette, non ?
Ben, c'est sur la bande, je pense qu'ils ont dû améliorer.
Ils ont travaillé dur, finalement.
Il reste encore un acteur qui a toujours continué à produire des cassettes, c'est le National Audio Company. Donc, c'est une société qui crée des cassettes, qui crée des albums pour des artistes. Et c'est elle qui a enregistré donc, l'album de Justin Bieber récemment. Et ses ventes ont augmenté de 30% en 2016.
Pas mal, quand même. Et quelques questions matérielles, maintenant, on fait comment pour écouter ?
Alors ça, c'est le problème. Pour l'instant, moi, j'ai fouiné sur le web. J'ai pas encore trouvé de nouveaux produits, c'est-à-dire des produits qui vont sortir là pour écouter. Comme un nouveau Walkman. Mais c'est évident que ce genre de machines vont ressortir. Idem pour les postes de cassette ou les vieux Ghetto Blasters. S'il y a un engouement, c'est forcément que les produits vont ressortir lors du retour de vinyle. Il a fallu attendre quelques années avant de retrouver les platines dans les grandes enseignes comme la Fnac ou chez Darty.
Avant, les gens regardent leur vinyle.
Et ouais, où ils écoutaient sur les vieux trucs de papa-maman, quoi.
Oui.
Les cassettes qui sortent aujourd'hui, elles sortent avec forcément la cassette intérieure, mais aussi il y a une petite passerelle qui se fait entre le web et les cassettes, puisqu'ils mettent un code, comme quand vous achetez un CD, pour télécharger quand même l'album en MP3 pour l'écouter sur iTunes.
Parce que bon, quand même, faut être hipster, mais pas trop.
Parce que vous pouvez collectionner, mais vous avez quand même la chanson sur votre téléphone, quoi. Donc il y a une passerelle, comme je disais, qui se crée entre les deux supports. Pour l'instant, donc ces modes de revival sont surtout des moyens de collectionner les produits et de revenir à un objet physique face au tout numérique aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens en ont marre de tout avoir, d'avoir une collection énorme de MP3. Ils aiment bien faire une petite collection avec quelques vinyles et quelques cassettes maintenant.
Cassette, c'est quand même bien plus pérenne, je pense, au niveau du format de stockage.
Oui, c'est beaucoup plus
CD,
beaucoup plus stable, c'est sûr.
Vu la bande magnétique, elle crève un peu, hein, au bout d'un moment.
Bah, elle est moins soumise à. Camille, qui est de Slamatova, nous regarde et
nous
dit de la
bien
tête.
Bien sûr que ça se pourrait.
Bon, bah, question d'entretien du vinyle aussi. Et alors que la bande magnétique de la cassette, elle, une fois qu'elle est un peu désuée, plus difficile de la remettre d'aplomb.
C'est vrai.
Merci Camille.
C'est bon d'avoir.
Mais elle est quand même protégée par le support plastique.
Important d'avoir l'avis d'un expert.
C'est pas mal dernier mot.
Spam impose son style. Mais merci Camille. Donc, où est-ce que j'en étais ? Donc c'est encore le début, mais l'annonce de Sony avec sa nouvelle cassette, les ventes qui ne font que s'accroître chaque année et l'engouement des majors prouve bien que c'est une vraie tendance, même si c'est encore de niche et destiné aux hipsters forcément.
Bien sûr.
Sachez qu'à Poitiers, on n'est pas à la ramasse puisque chez
Plexus Record,
il est possible de trouver une petite sélection de cassettes et de matos pour écouter tout ça. Plexus, c'est aussi un label et ils sortent notamment des EP sur cassette. Et il me semble que nos amis de Technogramma ont sorti quelque chose sur cassette l'an dernier, où c'est prévu, et je devais pas le dire, donc je sais plus. Je m'engage aujourd'hui dans Spam, messieurs.
Vas-y, Adrien, Romain. Attention, je t'en regarde dans les yeux à ce moment-là.
Si les ventes de ventes de cassettes doublent, c'est-à-dire qu'on était à 129 000, si elles doublent, donc augmentent de 50%, je ferai gagner à nos auditeurs ma compile cassette de Barry White signée par toute l'équipe de Spam.
Bravo, je l'engagement.
Je
bravo.
Pense que tout le monde en rêve.
Je pense, mais je veux ça. Merci, Bastien.
Virgule.
Ça sent rudement bon.
Oui, c'est vrai.
Pulsar, c'est bon.
Vous en voulez.
Oh, merci.
Point d'exclamation.
Allez, après les cassettes audio, on va passer aux cassettes vidéo. T'es allé chez ton marchand de cassettes vidéo, Bastien, et t'as regardé les séries actuellement. Lance le journal des séries.
C'est parti.
Ah, la musique fait peur. Hein.
Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que dimanche c'était la finale de la NFL, le Super Bowl. Oui. Est-ce que vous avez regardé ?
Pas du tout.
Non. Moi, j'ai
Tom
regardé.
Brady a gagné. Donald Trump est très content.
Exactement. C'était un match de folie qui s'est. Enfin bref, ça s'est terminé à la fin du match. Grosse remontée des Patriots.
Pourquoi on parle jamais de curling dans cette émission ?
Et pourquoi à chaque fois qu'on parle de sport, il y a toujours quelqu'un qui nous parle de curling ?
C'est clair. Enfin, le Super Bowl,
parce qu'il y a toujours un connard comme moi, celui-là.
Le Super Bowl, ça a quand même engendré la consommation de 1 milliard 300 millions d'ailes de poulet, quand même, messieurs.
Bravo, le génocide des poulets, bravo, on applaudit.
Bon, bref. C'est trop de poulets sur cette planète.
Pendant les coupures pub de ce fameux sommeil événement sportif, c'est souvent le moment de découvrir de nouvelles pubs Doritos, par exemple,
ou
de
nouvelles pubs
pour les voitures. Mais c'est aussi pas mal de trailers de films et de séries. Et bien cette année, Netflix a sorti le chéquier pour nous annoncer la sortie de la saison 2 de Stranger Things, qui portera le nom de Stranger Things 2, un peu à l'instar des films des années 80. Il faudra donc malheureusement attendre le 31 octobre, jour d'Halloween, pour regarder donc la saison 2, et au programme, un monstre va envahir normalement la ville.
L'hologramme de Jean-Luc.
C'est clair. Et maintenant,
à Paris.
Ah là là, mon Dieu.
Enchaîne.
Je continue. Pour patienter avant la fin de l'année, vous pourrez donc regarder la nouvelle série humoristique Netflix autour des zombies, Santa Clarita Diet, avec Drew Barrymore. Au casting également, Timothy Olyphant de Deadwood, ou du très mauvais Hitman.
Très très mauvais.
C'est l'histoire d'un couple dont la femme est un zombie et qui doit donc se rassasier quotidiennement de chair fraîche et humaine. Ouais. Et donc son mari l'aide à trouver. Pourquoi pas, quoi.
La meilleure critique,
mais
pourquoi
bon,
pas.
C'est, apparemment, on en parle, les avis sont un peu mitigés, mais pourquoi pas une série humoristique autour des zombies. Bon. Un point un peu sur ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui, alors cette semaine à la télé, je vais peut-être essayer de vous faire ça chaque semaine, sur TF1 ou en replay ou sur HD1 vendredi, car c'est passé hier, la série Ennemi Public, série belge sur un tueur d'enfants. Bon.
Okay.
Mais il paraît que c'est bien. Plus joyeuse, la 9e saison et dernière de Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, ce sera jeudi, et sur 13e rue, la saison 3 de The Fall, dont vous avez parlé, on vous avait parlé dans Spam, comme série de la semaine, ce sera dimanche. Pour finir, si votre tonton d'Amérique enregistre encore ses séries sur son magnétoscope, n'hésitez pas à lui demander de vous envoyer les deux premiers épisodes de 24 heures Legacy qui sont passés dimanche.
T'attends, hein.
Donc la suite de 24 heures chrono qui a commencé donc dimanche le 5 février. Peut-être une future série Spam de la semaine, on ne sait pas.
Ah bah oui,
ça vous dit.
Je sais que tu veux la faire absolument, donc on te la laisse. Hein.
Et pour nous, ce moyen de transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
On n'en a pas parlé, mais en décembre s'est terminée la saison 20 de South Park. Alors South Park, parlons-en, et je vais pas vous faire l'insulte de présenter une énième fois cette série animée. Vous connaissez tous les aventures de ces quatre gamins dans une ville du Colorado.
En train de la présenter là.
Oui, je la présente, oui.
Bah,
oui,
fausse annonce.
D'abord parce que je fais ce que je veux. Vous connaissez les nombreuses morts de Kenny, vous connaissez le machiavélisme de Cartman, la voix de la raison de la part de Stan et Kyle, qui sont la voix des créateurs de la série. Donc la série s'amuse depuis des années à transgresser tous les interdits autour de la sexualité, de la religion et de la politique. Les auteurs prennent toujours un malin plaisir à mettre les pieds dans le plat. Elle est jugée géniale pour certains, dont moi, et la série est considérée juste vulgaire pour les cons, c'est-à-dire les autres, pardon. Hein. Et à cela, je dis... Ah, t'as raté mon son.
C'était Mr. Garrison.
Non, c'était l'autre avant.
Ah, bah je l'ai, attendez.
Toi, je vais te claquer les couilles.
Voilà, merci.
Excuse-moi.
C'était important de... Vas-y. Petit sondage d'ailleurs entre vous, chers amis. Vous avez déjà vu les dernières saisons de South Park?
Je n'ai jamais regardé un seul épisode.
J'en ai regardé quelques-uns, c'est plutôt rigolo.
Mais c'est bien ce que je pensais en fait. On a tous un peu oublié cette série et l'importance de cette série. Elle fait partie du paysage audiovisuel, un peu comme Simpson, mais ouais. Tout le monde ne regarde pas ou ne regarde plus parce que c'est quelque part quelque chose qui est en arrière-plan du monde des séries.
Et surtout, ça passe nulle part aussi.
Bah oui, en France, on n'entend pas parler. Sur Canal avant, mais.
Sur Game One, je crois que ça passe maintenant.
Et tout le monde regarde Game One.
C'est bien connu.
Allez.
En fait, cette série est importante. Il faut se pencher sur les dernières saisons de South Park pour bien se rendre compte que derrière les blagues potaches et un peu crades se cache souvent une satire très très profonde et très poussée de l'Amérique. Notamment, il est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé dans ces deux dernières saisons. Pour la première fois dans l'histoire de la série, les épisodes ne sont plus indépendants les uns des autres, mais liés entre eux, racontant une histoire globale. Si la dernière saison est moins intéressante, je vous invite à regarder la 19e saison, celle donc de 2015. Elle brasse énormément de sujets très rares et très compliqués pour une série injustement considérée comme simplement vulgaire. Elle parle de gentrification, donc de l'urbanisation massive qui met les pauvres hors des villes. Elle parle de l'évolution de la publicité, elle parle de la culpabilité de la classe moyenne envers les pays pauvres et les comportements indécents qui vont avec. Elle parle de la culture du politiquement correct qui envahit les États-Unis actuellement. Et elle raconte surtout, en 2015 je le rappelle, une Amérique qui change et qui laisse sur le bas-côté une partie grandissante de sa population qui ne peut plus faire partie du modèle économique des villes moyennes. Et c'est là le génie de cette série, expliquer en creux dès 2015 ce qui va emmener Donald Trump au pouvoir. Montrer un libéralisme effréné sur lequel est fondée l'Amérique qui devient un cauchemar pour ceux qui n'ont pas les moyens de suivre. Tout est dit dans cette saison 19 et c'est en fait un véritable portrait de ce qui gangrène le pays. Et c'est bien le problème en fait de la saison 20 qui se contente de suivre la continuité de la précédente saison sans profondément se renouveler. Elle raconte cette inexorable montée d'un monsieur Garrison devenu le sosie de Donald Trump qui gagne avec un unique programme. F*** them all to death. Let's make this country great again. And then after we f*** every last one of them to death, we build a big wall. And if anyone comes over the wall, we f*** them to death too. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et les bips, hein, je traduis, Monsieur Garrison, sosie de Donald Trump, dit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les niquer à mort, pardon pour le langage, et ceux qui ne sont pas contents, on va construire un mur, et ceux qui passent par-dessus le mur, on va les niquer à mort. C'est son seul programme. Et en fait, derrière tout ça, la série tente une sorte d'analyse intéressante de la culture de la nostalgie grandissante aux États-Unis, qui explique le succès de reboots de films tels que Star Wars et de slogans politiques vantant une Amérique censément géniale par le passé qu'il faudrait rendre « great again ». Sauf que Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs et auteurs de la série, ne croyaient pas à la victoire de Trump, malgré les propres indices disséminés dans leur propre création. Les derniers épisodes de la saison 20 s'en ressentent et la fin de la saison est moins percutante. Et donc la 21e saison...
Comment va-t-elle se passer ?
Les deux créateurs de la série se sont confiés à un média australien la semaine dernière, abc.net.au, et ils disent être très embêtés pour écrire cette 21e saison car la politique américaine, je cite, est devenue plus drôle que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils ont donc décidé d'arrêter de caricaturer Trump contre l'avis des fans qui souhaitaient continuer cette caricature, et ils vont simplement laisser faire le gouvernement. On est bien arrivé à ce point où la fiction est complètement dépassée par la réalité, et ça, pour les auteurs, c'est un drame. En fait, South Park est profondément politique, et même si la série est surtout centrée sur la vie américaine, il est très intéressant pour nous, Français, de la regarder, ne serait-ce que pour comprendre et anticiper certains mouvements sociaux qui ne manqueront pas à un moment ou à un autre d'arriver chez nous. Notamment le mouvement des Social Justice Warriors, le mouvement des Gender Fluid, les Safe Space. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, regardez South Park pour comprendre, et vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, parce que quand ça arrivera, il faudra bien savoir se défendre contre ça.
Virgule.
Et surtout, la confusion dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Alors, en tant que fan de South Park, je suis assez choqué que vous ne regardiez pas cette série. Regardez-la.
Bah, je sais bien, mais c'est
moi,
vrai que
je suis fan
moi...
des Feux de l'amour et je suis choqué que tu regardes pas.
Il y a autant presque plus de saisons même.
Je ferai un effort, j'essaie de regarder les Feux de l'amour.
Il faudrait que tu vachement tech les Feux de l'amour.
C'est clair. Faudrait que tu nous fasses un résumé des Feux de l'amour, Bastien, un jour quand même.
Bah, il faudrait que je les regarde tous. Ok, relevé. Défi relevé.
Challenge accepté. Bon.
Alors là, t'es 40 gigas de ta 4G, ils vont partir, mais d'un coup.
C'est clair.
Merci. Votre soirée sur Pulsar se poursuit avec à 20h Technogramma, un condensé de l'actu techno et hip-hop instrumental en provenance directe des zones underground de toute la planète, suivi à 21h de Culture Dub et à 23h Audrey Petburn et son acolyte Brian Cunilingus vous accueillent dans la cabine du désir. Avant cela, c'est nos copains de Slamatouva de 19h à 21h qui vont prendre l'antenne et si vous voulez participer, c'est très simple, vous appelez le 05 49 88 33 04. Quant à nous, vous nous retrouverez la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'annonce que vous retrouvez à disposition à partir de la semaine, depuis la semaine dernière, à partir de maintenant, nos podcasts qui seront sur Facebook et Earth This, un concurrent de SoundCloud.
Ouais, c'est moins cher, même qui est gratuit.
Et j'en profite pour vous annoncer que nous serons, nous et équipe de Spam, en auditeur lors de l'émission, une émission spéciale qui se déroule jeudi à l'espace Cobalt de Poitiers, où vous pourrez nous retrouver.
19h jeudi.
Mais voilà, vous pourrez nous retrouver en direct.
Exactement. Mais l'émission durera de 17h à 20h.
À 20h, ouais.
Voilà, un petit moment spécial dans la vie de Pulsar qui va se mettre au rythme de ce nouvel espace numérique. Et ce réservoir d'auto-entrepreneurs de la ville de Poitiers.
C'est ça, on y sera.
Merci à tous, en attendant les copains, on se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine.
Yes, oh oui. Ça marche.
Et à jeudi. Salut.
Salut.
Pulsar, les étoiles en plus.
Ah ouais. Tell them when it's prime gon' be, 95 Malik B. I proceed while these fools getting put on like shoes. Smoking out the window, playing Coltrane.